Béatrice et Robert.
Lormet l'avait reçue à la petite porte de l'hôtel, celle qu'empruntaient les fournisseurs, comme si la visiteuse avait été une quelconque fripière ou brodeuse venue livrer une commande. D'ailleurs, vêtue d'une pèlerine de léger drap gris dont le capuchon lui couvrait les cheveux, Béatrice d'Hirson ne se distinguait en rien d'une ordinaire bourgeoise. Elle avait immédiatement reconnu le vieux serviteur personnel de Monseigneur d'Artois. Mais elle n'en avait pas montré l'étonnement, pas plus qu'elle n'en témoignait à traverser les deux cours, les bâtiments de service, et à voir qu'on la conduisait vers les appartements seigneuriaux. Lormet allait devant, le souffle un peu bruyant, et se retournait de temps en temps pour jeter par-dessus l'épaule un regard défiant sur cette fille trop belle, à la démarche glissante et balancée, et qui ne paraissait nullement intimidée. « Qu'ont à faire ici les gens de Mao ?» bougonnait intérieurement Lormet. « Quel plat de sa façon cette gueuse vient-elle cuire à nos fourneaux ? Ah, Monseigneur Robert est bien imprudent de lui avoir laissé franchir, lui. La dame Mao sait bien comment agir, ce n'est pas la plus laide de ces femmes qu'elle lui dépêche. » Un couloir voûté, une tapisserie, une porte basse qui tourna sur des gonds bien huilés, et Béatrice vit, aux trois murs, Saint-Georges dardant sa lance, Saint-Maurice appuyé sur son glaive et Saint-Pierre tirant ses filets. Monseigneur Robert se tenait debout au milieu de la pièce, les jambes largement écartées, les bras croisés sur le poitrail et le menton posé sur le col. Béatrice abaissa ses longs cils et se sentit parcourue d'un délectable frémissement de crainte et de satisfaction mêlée. « Vous ne vous attendiez point à me voir, je pense, » dit Robert d'Artois. « Oh, si, monseigneur, » répondit Béatrice de sa voix lente. « C'était bien vous que j'espérais approcher. » Elle avait fait le nécessaire pour cela et si peu déguisé pendant une semaine ses émissaires auprès de la Divion que tout l'hôtel devait être averti. La réponse surprit un peu Robert. « Alors, que venez-vous faire ? M'annoncer la mort de ma tante Mao ?»« Oh non, monseigneur, Madame Mao s'est seulement cassé une dent. »« Ah, belle nouvelle !» dit Robert. « Mais qui ne me paraît pas valoir le dérangement, vous envoie-t-elle en messagère ? Voit-elle qu'elle a perdu sa cause ? Et veut-elle à présent traiter avec moi ? Je ne traiterai pas. »« Oh non, monseigneur, Madame Mao ne veut pas traiter puisqu'elle sait qu'elle gagnera. »«
Elle gagnera ? En vérité, contre 55 témoins, tous s'accordent pour reconnaître les vols et tromperies commis à mon endroit !»
Béatrice sourit. Madame Mao en aura bien 60, monseigneur, pour prouver que vos témoins disent faux, et qui auront été payés le même prix.
Ah, ça, la belle, est-ce pour me narguer que vous êtes entrée ici ? Les témoins de votre maîtresse ne vaudront rien, parce que les miens appuient de très bonnes pièces, que je montrerai.
Ah, vraiment, monseigneur ? Dit Béatrice d'un ton faussement respectueux. Alors c'est que Madame Mao se trompe sur la raison de la grande recherche de sceaux qui se fait en Artois ces temps-ci pour votre maison.
« On recherche des sceaux ?» dit Robert irrité. « Parce qu'on recherche toute pièce ancienne, et que mon nouveau chancelier veille à mettre ordre en mes registres. »«
Ah, vraiment, monseigneur ?» répéta Béatrice.
Mais ça n'est pas à vous de m'interroger. C'est moi qui vous demande ce que vous cherchez ici. Vous venez soudoyer mes gens.
Nul besoin, monseigneur, puisque je suis parvenu jusqu'à vous.
Mais que me voulez-vous à la parfum ?
S'écria-t-il. Béatrice parcourait la pièce du regard. Elle vit la porte par laquelle elle était entrée et qui s'ouvrait dans le ventre de la Madeleine. Elle eut un léger rire. Est-ce par cette chatière que passent toujours les dames que vous recevez ? Le géant commençait à s'énerver, cette voix traînante, ironique, ce rire bref, ce regard noir qui brillait un instant et s'éteignait aussitôt derrière les longs cils recourbés, tout cela le troublait un peu.
« Prends garde, Robert, se disait-il. C'est là, garce fameuse, et qu'on ne doit pas t'envoyer pour ton bien. »
Il la connaissait de longue date, la demoiselle Béatrice. Ce n'était pas la première fois qu'elle le provoquait. Il se rappelait comment, à l'abbaye de Chalice, sortant d'un conseil nocturne autour du roi Charles IV, à propos des affaires d'Angleterre, il avait trouvé Béatrice qui l'attendait sous les arches du cloître de l'hôtellerie. Et bien d'autres fois encore. À chaque rencontre, c'était le même regard attaché au sien, le même mouvement onduleux des hanches, le même soulèvement de poitrine. Robert n'était pas homme que la fidélité ligotait, un tronc d'arbre habillé d'un jupon lui fait sortir de sa route. Mais cette fille, qui était à Mao et pour toute besogne, lui avait toujours inspiré la prudence. « Ma belle, vous êtes sûrement bien gueuse, mais peut-être également êtes-vous avisée. Ma tante croit qu'elle gagnera sa cause, mais vous, l'œil plus ouvert, vous vous dites déjà qu'elle la perdra. Sans doute pensez-vous que le bon vent va cesser de souffler du côté de Conflans et qu'il serait temps de se faire bien voir de ce Monseigneur Robert dont on attend Mehdi, auquel on a si grandement nui, et dont la main risque d'être lourde le jour de la vengeance. N'est-ce pas ?» Il marchait de long en large selon son habitude. Il portait une cotte courte qui lui moulait la panse, les énormes muscles de sa cuisse tendaient l'étoffe de ses chausses. Béatrice, à travers ses cils, ne cessait de l'observer depuis la rousse chevelure jusqu'aux souliers. « Comme il doit peser lourd !» pensait-elle. « Mais on n'acquiert pas mes faveurs par un sourire, sachez-le » continuait Robert. « À moins que vous n'ayez grand besoin de monnaie et quelques secrets à me vendre, je récompense si l'on me sert, mais je suis sans pitié si l'on veut me truffer. »«
Je n'ai rien à vous vendre, monseigneur. »
Alors, demoiselle Béatrice, pour votre gouverne et salut, sachez que vous aurez avantage à prendre au large des portes de mon hôtel, quel que soit le prétexte à vous en approcher. Mes cuisines sont bien gardées, mes plats sont éprouvés, mon vin est essayé avant qu'on ne me le serve. »
Béatrice se passa les lèvres sur la pointe de la langue, comme si elle goûtait une liqueur savoureuse. « Il redoute que je ne l'empoisonne, » se disait-elle. Oh, qu'elle s'amusait, et qu'elle avait peur à la fois. Et Mao, pendant ce temps, qui la croyait occupée à circonvenir la Divion. Oh, l'admirable moment! Béatrice avait l'impression de tenir au creux de sa main plusieurs lacs invincibles et mortels. Encore fallait-il les bien assujettir.